Bonjour à tous, vous pensiez que le mois de l'aéronautique était terminé? Bien moi aussi, mais sur Devient Génial, on aime les surprises et nous avons donc un épisode bonus. Donc on ne pouvait pas faire un mois de l'aéro sans aller à la rencontre d'une hôtesse de l'air. Et je reçois aujourd'hui Pauline Dubernard, hôtesse de l'air chez Air Caraïbes et French Bee. Salut Pauline.
Salut Jérémy, et merci de me recevoir.
Merci d'être là parce que je sais que tu es toujours entre deux avions. Donc,
oui.
C'est un honneur que tu nous fais de passer un petit peu de temps avec nous.
Merci beaucoup.
On va démarrer tout de suite par la question classique de Devient Génial qui rapporte à l'enfance. Est-ce que tu peux nous raconter où tu as grandi et quel enfant tu étais?
Alors, j'ai grandi en province, en Corrèze pour être exact.
Waouh. À Brive?
Pas très loin.
Et... Ah, je veux le village. Hein. Je veux le...
Alors, le village Arnac-Pompadour.
J'adore.
Voilà, un village très sympathique, touristique. Je recommande vraiment pour des vacances au calme, je recommande. Et non, moi, j'étais une enfant très calme, très créative, sage. Et voilà.
Alors, quand tu dis créative, c'est-à-dire tu peignais, tu écrivais, tu inventais, qu'est-ce que tu faisais?
Ouais, je pouvais passer une après-midi, des heures même, enfermée à inventer quelque chose, des nouveaux jeux. Je me suis improvisée styliste à un moment donné. Voilà, je créais, quoi.
En fait, les ruraux sont souvent créatifs parce qu'ils s'ennuient à la campagne.
Exactement.
Donc, il paraît que l'ennui est vecteur de créativité.
Le calme est source de ressources, justement. Voilà, on est très créatif, ouais, je pense aussi.
La petite Pauline a rêvé de quoi à cette époque-là?
Alors, la petite Pauline, elle rêvait de devenir avocate. Donc, rien à voir, peut-être peu créatif hein, finalement. Mais ouais, la petite Pauline a été très empathique. Et voilà, devenir avocate, c'était pour moi à l'époque, je pense, la solution pour aider les autres, quoi.
Et t'avais une influence ou c'est venu un peu par hasard?
Non, ouais, c'est venu par hasard. C'est vraiment... j'avais des obsessions. Par exemple, j'étais très soucieuse des sans-abri. Et ouais, j'ai fait pas mal de cinéma à mes parents parce que je ne comprenais pas pourquoi on n'invitait pas des sans-abri à dîner avec nous. Alors que eux n'avaient rien et nous, on avait finalement des choses à partager. Donc voilà, j'ai dû être pénible sur mes jeunes années avec ça. Et puis voilà, avec le temps, j'ai découvert le métier d'avocate. Quand je dis ça, j'étais vraiment petite. Hein, j'avais 5 ans déjà quand je me souciais de ça.
Déjà à 5 ans?
Ouais, j'étais vraiment petite quand j'embêtais. Bah oui, en grandissant, tu comprends que bon, on ne peut pas vraiment inviter les SDF chez nous. Hein, mais voilà, petite, j'avais cette obsession-là. Et donc voilà, en découvrant le métier d'avocate, ouais, je me suis dit, je pense que c'est ça qui est fait pour moi.
Alors, tu vas obtenir le bac. Après, tu vas te lancer justement dans des études de droit. Donc, il y a quand même cette logique. Donc, parcours assez classique. Mais ce qui est moins classique, c'est que tu vas t'engager dans le bénévolat et notamment auprès des victimes d'infractions pénales. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit et pourquoi tu as décidé d'accompagner ces victimes?
Donc, moi, j'ai découvert les associations d'aide aux victimes d'infractions pénales. Donc, il faut savoir qu'il y a une association dans chaque département français. C'est le réseau France Victimes, anciennement INAVEM. C'est un réseau qui a 30 ans d'expérience, 130 associations sur tout le territoire national. Et voilà, quand j'ai découvert cette association-là, c'était une évidence pour moi que de m'investir et de devenir bénévole pour eux. Donc, en parallèle de mes études de droit, j'ai commencé ce bénévolat. Pour vous expliquer un petit peu, donc leur mission, c'est vraiment accueillir, aider, soutenir les victimes d'infractions pénales qui en font la demande. Donc l'accueil, le soutien, l'accompagnement, c'est sur deux volets, le volet juridique évidemment et le volet psychologique.
Ouais.
Et voilà, ça propose cet accompagnement à toutes victimes qui en font la demande.
Et c'est quoi l'infraction pénale?
L'infraction pénale.
Ouais.
Écoute, j'ai pas prévu une définition exacte de l'infraction
pénale.
Non,
mais à peu
pénale,
près, parce qu'on
mais
dit.
Mais je pense qu'on on situe tous l'infraction pénale, hein, du simple larcin aux crimes les plus graves. Donc voilà, les contraventions sont des infractions pénales.
Donc c'est
les
très large
délits,
en fait.
Bien sûr, les contraventions, les délits, les crimes. Donc voilà, malheureusement, les victimes de crimes ont besoin sincèrement d'être accompagnés. Les délits, même les plus légers, parfois peuvent causer des conséquences psychologiques importantes sur les gens. Et l'accompagnement juridique, dans tous les cas, il est nécessaire. Toutes les victimes n'ont pas un avocat. Pour plusieurs raisons, certaines n'en veulent pas, certaines n'ont pas les moyens de le payer. Il existe une aide juridictionnelle, mais tout le monde n'y a pas droit non plus.
D'accord.
L'association d'aide aux victimes ne remplacera pas l'avocat parce qu'aucun juriste de l'association ne plaidera aux côtés de la victime, mais pourra quand même assurer l'accompagnement pour lui permettre de faire toutes les démarches juridiques nécessaires, quoi.
Donc toi, en tant que bénévole, justement, tu les aidais plutôt sur ce volet juridique.
Oui, oui.
Et pour la partie psychologique, c'est plutôt justement des gens qui sont dans la psychologie, j'imagine ?
Alors, à ma connaissance, dans mon association, il n'y avait pas de bénévole pour la psychologie, mais c'est tout à fait possible également, hein, bien sûr. Mais après, il y a des juristes et des psychologues au sein de l'association qui sont donc des professionnels et qui assurent cet accompagnement sur les deux volets.
Et toi, tu as connu cette association parce que tu as été victime ou tu as connu ça complètement par hasard ?
Alors,
Pas indiscret. Hein.
Pas du tout. J'ai connu cette association parce que malheureusement, j'ai été victime d'un cambriolage dans mon premier appartement, toute seule. J'étais très jeune, j'avais 18 ans. Et au début, pas d'auteur... Qui était identifié. Et puis, quelques années plus tard, l'auteur est identifié. À ce moment-là, je suis déjà au cours de mes études de droit. Donc, je suis en première année, je pense, ou début de deuxième année. Et à ce moment-là, je me retrouve, OK, donc il y a un auteur. Et qu'est-ce que je dois faire, quoi ? Donc, vous êtes contacté par le commissariat qui vous dit, voilà, il va y avoir des suites. Là, je me dis, c'est très bien, je suis moi-même étudiante en droit, mais finalement, je vois que la pratique, on ne sait pas par quel bout commencer. Ouais. Et je n'étais pas la plus mal placée, mais moi-même, je ne savais pas par quel bout prendre le problème. Et donc là, j'ai eu connaissance, de par mes connaissances dans le milieu, de cette association. Je me suis rapprochée d'elle, ils m'ont aidée face, moi, à ma problématique suite au cambriolage. Et puis, c'est devenu, j'ai connu leur fonctionnement et ça a été une évidence pour moi.
Alors, pour terminer sur ce volet, au sein de l'association, tu as participé à la mise en place de ce qu'on appelle la justice restaurative. Alors, pour ceux qui ont vu récemment le très beau film de Jeanne Herry, Je verrai toujours vos visages, la justice restaurative, ça parle, parce que justement, c'est le sujet de ce film-là. Mais pour les autres, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste ?
Alors, la justice restaurative, c'est un processus qui consiste à organiser des rencontres entre auteurs et victimes. Alors, il y a plusieurs modèles et modules pour cela. Dans le film, ce qui est présenté, c'est les rencontres condamnées-victimes ou détenues-victimes. Mmh. Donc, on est vraiment au sein du système judiciaire et c'est en partenariat d'ailleurs avec le SPIP, qui est le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Il y a ce modèle-là, mais il y a aussi le modèle de la médiation restaurative qui, là, organise la rencontre entre l'auteur et la victime de la même infraction.
Ah oui, parce que c'est vrai que ce qu'on voit dans le film, c'est que les gens rencontrent des auteurs de crimes, ou en tout cas de délits, mais c'est pas
la même qualification pénale.
Ouais, mais c'est pas le délit qui a été causé sur la victime.
Les auteurs et les victimes directement, bien évidemment.
Mais ça, ça existe.
Mais ça existe aussi, ouais.
C'est chaud, hein. Parce que déjà, en fait, on voit, je fais une parenthèse là-dessus, mais on voit dans le film que parfois, ce qui angoisse les victimes, c'est justement de ne pas savoir qui est l'auteur et de se dire qu'il peut être dans la rue demain, il peut y avoir des représailles, alors qu'en fait, l'auteur, il veut juste ne pas être reconnu, quoi.
Oui, il y a beaucoup de choses qui se jouent au cours de ces rencontres-là, qu'elles soient directes ou qu'elles soient indirectes, comme ce qui est présenté dans le film. Après, ce qui est très important avec ça, je ne sais pas si l'accent est suffisamment mis là-dessus dans le film, mais tout se joue dans la préparation. On n'envoie pas n'importe qui dans un processus de justice restaurative. Mmh. Il faut déjà que les personnes aient des préalables, finalement, soient prêtes déjà un petit peu psychologiquement dès le début. Et ensuite, on rentre vraiment dans un processus de préparation qui est assez long. Les personnes sont suivies pendant plusieurs semaines, préparées avec des psychologues, des animateurs, des gens formés à la justice restaurative. Elles n'iront pas à la rencontre comme ça, sans cette préparation qui est vraiment capitale et importante, quoi.
En tout cas, j'encourage les gens à regarder le film parce que moi, j'ai découvert ce sujet et je trouve qu'il est... Alors, je fais pas partie des gens qui sont dedans, mais je trouve qu'il est hyper bien traité. En tout cas, on comprend bien. Il est tourné côté victime, mais aussi côté coupable. Donc, ça permet aussi de voir un peu les deux parties. Donc, je trouve que ça vaut le coup.
Non, c'est sûr que le film...
Tu l'as
le
vu?
film est très... Je l'ai vu, ouais. Le film est très bien. Je pense qu'il est assez représentatif. Malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que ces rencontres-là, condamnés victimes, ils s'en organisent encore très peu.
Bah oui, j'imagine,
C'est
oui.
encore, voilà, la justice restaurative, c'est encore un processus qui n'est pas suffisamment exploité, à mon sens, alors que, y a un fond derrière tout ça qui est capital. Pour rappeler, encore une fois, je ne sais pas si c'est saillant dans le film, je m'en souviens plus, mais l'objectif de tout ça, déjà du côté de la victime, c'est d'apporter, alors déjà de restaurer le lien de confiance qui a été perdu suite aux faits qu'elle a subis déjà, et ensuite d'apporter une réparation autre que ce qui est fait actuellement, à savoir aujourd'hui, voilà, vous êtes victime, donc déjà si vous avez la chance d'être reconnue victime par la justice, donc d'aller à un procès pénal, d'avoir votre reconnaissance de victime, c'est déjà quelque chose, hein, c'est pas le cas de tout le monde, hein, plein de victimes restent sans réponse pénale à tout ça. Ensuite, la seule réparation avec laquelle vous allez sortir de votre procès, finalement, c'est une réparation financière, ni plus
Ouais,
ni moins.
bien sûr.
Aujourd'hui, si vous avez... moi, j'ai échangé avec beaucoup de victimes, j'ai vu ça pendant longtemps, donc je sais que c'est loin d'être suffisant. Et les victimes ont besoin d'autre chose, elles ont besoin de se reconstruire. Un dédommagement pécunier, ça
Ouais.
remplace pas la perte d'un individu, ça remplace pas une identité perdue suite à un viol ou du harcèlement. Donc voilà, il y a cette idée de réparation beaucoup plus morale et humaine qui est essentielle. Et si on se penche du côté des auteurs, bah, l'intérêt de tout ça, c'est quand même d'engendrer chez eux une prise de conscience. Et en second plan, de lutter contre la récidive. Donc, c'est pas rien quand même comme
Non, non,
projet.
c'est super.
Bon, voilà, malheureusement, je trouve qu'il n'a pas encore l'impact qu'il devrait avoir, mais espérons que ça se démocratise petit à petit.
En tout cas, super intéressant. Alors, pour ceux qui sont venus pour le mois de l'aéro, on y arrive. Ne vous inquiétez pas.
On avait oublié,
Mais
franchement.
en tout cas, non, je voulais en parler parce que c'est quand même, enfin, moi, un sujet que je trouve hyper intéressant. Tu es passé par cette étape-là, donc j'avais envie qu'on en parle. Mais maintenant, on va passer à la deuxième étape parce que, ben, comme beaucoup de gens, le Covid a été source de renouveau et de changement. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé, ce grand temps fort qu'on a tous vécu et ce que ça a provoqué en toi?
Ouais, c'est vrai que je pense que c'est d'un point de vue général, on constate que ça a été un renouveau pour beaucoup de gens.
Ouais.
Bon, ça s'est couplé avec autre chose pour moi, c'est que à ce moment-là, mon compagnon a eu une mutation, donc je l'ai suivi et je me suis retrouvée donc en Île-de-France, un territoire waouh,
Horrible.
inconnu pour moi jusque-là. Et bon voilà, j'ai essayé de m'adapter. Pendant les périodes de confinement, j'essayais de trouver un petit coin de nature pour me ressourcer. Donc j'allais marcher au bord du canal de l'Ourcq, pour ceux
Ouais.
qui connaissent, donc qui est au sud de Roissy. Et bah, c'est amusant, ça rejoint tout à fait ton nouveau projet, Jérémy. Je me baladais au bord du canal de l'Ourcq et je pense que tu t'es inspiré aussi des plus grands philosophes, hein.
Ouais,
Je crois que c'est
exactement.
Aristote
Exactement.
qui s'est rendu compte que voilà, marcher, c'était vraiment source de clarté pour l'esprit.
C'est l'école péripatéticienne.
Et donc, d'où ton nouveau projet
Exactement.
d'aller marcher à la montagne pour clarifier ses idées. Donc, lors d'une de mes balades, et ben là, l'idée folle me vient et je me dis, bon, bah allez, pourquoi pas? Je me lance, je tente, je deviens hôtesse de l'air. Voilà, donc on est en plein Covid, on est en plein confinement, les aéroports sont fermés, les avions au hangar.
Ouais, c'est un pari quand même osé, parce qu'à l'époque, quand même, on ne savait pas trop si les avions allaient redécoller, quoi.
Alors
Enfin.
écoute, peut-être moi je suis trop optimiste ou je sais pas,
Oh, t'as eu raison au final, mais bon.
mais c'était évident pour moi. Je pense que toi, ton côté entrepreneur, tu vas pas me contredire, de toutes les crises, enfin la crise, elle est juste source de possibilités
Ouais,
et
bien sûr.
d'opportunités. Donc non, j'avais au plus profond de moi, j'étais convaincue que c'était le temps de crise qui me restait, c'était le temps qu'il me fallait pour me préparer. Et au moment où je serai prête, le marché allait réouvrir et puis j'arriverai à me trouver une petite place quelque part. Donc,
Et cette envie, elle venait d'où? T'aimais le voyage ou ça avait rien à voir?
Bah, le voyage, je pense déjà, on l'aime tous un petit peu. Je prenais pas du tout dans ma vie précédente le temps de voyager. J'étais toujours préoccupée par un projet ou par un autre. C'était vraiment la dernière chose qui me venait à l'esprit d'aller quelque part. Donc là, ça m'obligeait à voyager. C'était très bien. C'est une façon de découvrir le monde. Hein. Donc il n'y a pas de regret là-dessus. Mais non, c'est venu parce que je pense que c'est un petit peu un rêve de petite fille pour tout le monde que de devenir hôtesse de l'air. Et là, je m'en suis jamais sentie aussi proche. Je suis à côté de Roissy, je suis totalement sur un renouveau puisque ben, moi je suis venue ici, donc j'avais quitté mon emploi, j'étais... Mmh. Donc non, c'est un petit peu le pari fou ouais, de me dire, bon ok, je pense que cette crise va offrir de nouvelles opportunités, donc je le tente.
Et alors au début, tu t'y prends comment? Tu prends vraiment le sujet à bras le corps ou tu te dis, bon, je vais attendre quelques semaines et je verrai bien si ça reste encore en moi?
Non, non, j'attends jamais quelques semaines quand je pense à quelque chose. Non, mais surtout, à ce moment-là, parce qu'on ne l'a pas encore dit, donc moi, je ne parle pas un mot d'anglais.
Ah, mais c'est bien de le préciser.
Donc, ouais, non, c'est vraiment, on va pas se mentir, j'ai un niveau dramatique. Parce que, bon, bah voilà, j'ai juste appris l'anglais comme tout le monde à l'école. Et après, quand vous êtes juriste.
Oui, en droit, on n'apprend pas trop l'anglais.
Très peu. Mm. Et on l'apprend, mais très peu. Et puis après, j'en avais pas l'utilité. Donc, j'ai jamais entretenu un quelconque niveau. Et donc là, bon, c'est quand même un préalable un petit peu.
Même pour faire du vol intérieur ? Si jamais tu restes sur le sol national, il faut quand même parler anglais ou...
Alors, dans tous les cas, il faut parler anglais et un très bon anglais parce que l'anglais, c'est la langue de l'aviation.
D'accord.
On va tous communiquer en anglais. Nos procédures sont en anglais.
D'accord.
Voilà, c'est le langage de l'aviation. Et de toute façon, même en intérieur, vous allez travailler au quotidien avec des étrangers dans votre équipe, j'entends.
Hein. Ouais.
Les pilotes, les gens du sol, c'est vraiment une communauté...
Donc, pas négociable. Anglais, non. C'est comme
ah oui,
ça.
Non, mais pas négociable. Bon. Oui.
Alors comment tu te dis dans ta tête, je vais partir sur un métier que je connais pas. il va falloir que je maîtrise une langue. En fait, tu te mets quand même un beau défi.
un petit challenge. Sans regret, encore une fois. Mais ouais, donc déjà, dès ce jour-là où je le décide, je me dis là, oui, l'anglais, c'est pas négociable. Il faut que je commence vraiment à travailler sévèrement. Donc ça, c'était la première étape. Donc, il a fallu que j'atteigne un niveau convenable. Ensuite, comment
t'as
ça se passe?
T'as pris des cours? Comment t'as fait?
Alors, comment j'ai fait?
T'as regardé Netflix?
On est en confinement.
Ouais.
On est en Covid. Donc, les cours, partir à l'étranger, c'est pas des options possibles. Hein. Donc, comment j'ai fait? J'ai mis toute la journée, constamment, des choses en anglais dans mes oreilles. Je l'écoutais pas forcément assidûment. Mais j'étais convaincue que ça préparait mon cerveau de toute façon à acquérir le langage. Donc j'ai commencé comme ça. Ensuite, j'ai repris un petit peu des bases de la grammaire. Alors là, c'est la partie la moins marrante, évidemment. Et petit à petit, je me suis mis à acheter des petits livres et à décortiquer ces petits livres. J'ai travaillé comme ça, en autodidacte.
Les cahiers de vacances, quoi.
Ouais, voilà. Avec les pauvres bases que j'avais. Et voilà, il fallait que ça le fasse, hein, de toute façon. Donc, mais bon, comme quoi, rien n'est impossible.
Non, c'est clair.
Voilà.
Mais au-delà de l'anglais, on fait comment, en fait, pour être hôtesse de l'air? C'est quoi? C'est un diplôme? C'est une école? Honnêtement, je ne connais pas du tout le process.
Alors, il y a pas mal d'étapes et je voudrais essayer d'être précise parce que il vaut mieux avoir une map assez précise de tout ça pour un jeune qui souhaite le faire. Il y a quand même plusieurs choses à savoir. Donc déjà, comme on l'a dit, le niveau d'anglais, c'est non négociable.
Ouais.
Il faut qu'il soit bon.
Et il est évalué, justement? Tu as un truc type TOEIC ou des choses comme ça?
Voilà, alors il est évalué. En effet, ça peut être le TOEIC. Là, cette année, Air France recrute et il n'accepte plus le TOEIC. Il demande le Lingua Skill, donc, qui est un autre examen. Mais bon, voilà, dans tous les cas, bon, il faut considérer qu'il y aura des frais pour ces examens-là, déjà. Donc, il faut avoir un niveau B2. Ces examens, ils sont un petit peu, le lingua skill, il est un petit peu sous différents modules. Donc, il faut sélectionner tous les modules jusqu'au speaking.
D'accord.
Voilà, c'est important aussi là, pour ceux qui veulent postuler chez Air France. Il faut être âgé de 18 ans, déjà, être titulaire du baccalauréat,
ouais.
Le bon niveau d'anglais, avoir un passeport en cours de validité.
D'accord. Pas de casier judiciaire ?
Pas de casier judiciaire, en effet. Et le bulletin sera demandé pour postuler dans les compagnies, mais également dans l'école. Parce qu'en effet, il y a bien une école et une formation pour devenir hôtesse de l'air. Donc, le diplôme s'appelle le CCA. Donc, c'est le Cabin Crew Attestation.
D'accord.
Et donc, il y a plusieurs écoles qui proposent de passer cette formation. Pour en citer quelques-unes, donc, essayer d'apporter un peu de précision. Donc, il y a Aeroschool, qui est certainement la plus connue. Il y a l'ESMA aussi. Moi, j'ai choisi de faire une école un petit peu plus modeste, une petite école qui émergeait depuis quelques années, Horizon Academy pour la cité. Et voilà, je conseillerais selon les profils des gens. Une petite école, moi, ce que j'ai aimé, c'est le côté familial. On était un petit groupe, donc vraiment, il y avait ce côté individualité. Ce qui peut être une limite dans les petites écoles qu'il n'y aura pas dans les grandes, c'est le côté moyen matériel.
Ouais.
Évidemment, une grande école fournira voilà, des moyens plus importants. Donc après, voilà, au choix de chacun.
Ça prend combien de temps
Ouais, c'est une formation sur 5 semaines, 25 jours.
Ah, ça va vite quand même.
Ouais, ça va vite, mais donc il ne faut pas la sous-estimer. C'est du coup assez intense.
Ouais.
Voilà.
Ouais, j'imagine, parce que...
Et puis, ouais, je ne m'attendais pas moi-même à tout ce qu'on allait parcourir au cours de cette formation-là, quoi.
C'est en anglais ?
C'est en anglais.
Ah, je précise, parce que...
ouais, c'est en anglais. Pour parler des coûts un petit peu aussi, bah, c'est important de le prévoir, c'est une formation qui est dans l'ordre de 2000 euros.
D'accord.
Donc voilà, ça aussi, c'est quand même voilà, à anticiper.
C'est un point.
Ouais. Y a autre chose aussi, d'autres petits points auxquels on ne pense pas forcément. Il faut savoir nager.
Tiens.
Je m'attendais à cette réaction. Ouais, il faut savoir nager.
Au cas où tu atterrisses dans l'Hudson.
Exactement.
tu as Méris en plus.
Et dans l'Hudson, au mieux. Hein,
ouais,
parce
ouais,
que bon,
ouais.
c'est pas... Encore que la température n'était pas géniale, je pense. Mais bon, voilà.
Non, mais c'était plutôt un amérissage réussi.
Et je crois pas que les hôtesses de l'air aient vraiment eu besoin de nager.
Non, je crois
mais,
pas.
Mais au cas où.
Mais elles ont dû se poser la question à un moment donné.
Voilà, donc il faut savoir nager, il faut être à l'aise dans l'eau. Vous allez être évalué pour ça. Donc,
Sérieux ?
Ouais, ouais, ouais.
Mais t'es évalué où ? En piscine ou...
Oui.
Ah ouais, d'accord. Bon. Alors là, là j'avoue, je m'y attendais pas, tu vois.
Non, mais honnêtement, aujourd'hui, on va démystifier ce métier parce que vraiment, je trouve que c'est un métier qui est finalement très méconnu, quoi.
Ah ouais, non, ouais, mais grave. Enfin, de toute façon, moi, je me posais vraiment la question. C'est pour ça que je trouvais ça hyper intéressant de t'avoir au micro.
Ah ouais, ouais. Alors, pour te donner une petite précision aussi sur la piscine, il faut savoir sauter dans l'eau sans mouiller ta tête.
Alors ça je suis sûr je suis pas capable de le faire.
Mais ça a l'air très compliqué comme ça au début, mais en fait c'est faisable, quoi.
Ah ouais, mais c'est un bizutage.
C'est une stratégie. On s'en rapproche. L'épreuve piscine, j'avoue, c'est pour certains c'est un bizutage, ouais. Donc il y a ça. Il y a aussi, c'est important, il faut passer un petit examen médical avec un médecin, pas un médecin lambda, un médecin qui sera assermenté par la DGAC, donc c'est la Direction Générale de l'Aviation Civile, pardon. Et voilà, c'est un examen un petit peu plus complet où bah, il va regarder l'audition, voilà, tout plein de détails qu'on ne fait pas avec un médecin lambda. Et il faudra avoir ce certificat pour pouvoir exercer. Le mieux, c'est de le passer à l'avance, parce que si vous faites votre formation à 2000 euros pour ensuite voir le médecin et qu'il vous dise ben non, vous êtes inapte, pas d'intérêt. Donc,
et tu apprends quoi ? Tu apprends quoi dans la formation ?
Alors, je voulais également être précise sur ces points-là pour donner un petit peu une idée. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ? Je vais vous donner les points généraux. Alors, la réglementation en aéronautique, la communication. C'est quelque chose de très important dans les métiers de l'aviation. Les ressources de l'équipage, la gestion des passagers et de la cabine, les procédures standards et les procédures d'urgence, la formation en premier secours,
ah oui.
Sécurité et sûreté, les matières dangereuses également, la lutte contre le feu et la formation à la survie.
Ouais, donc c'est quand même beaucoup de choses...
En 25 jours.
Qui prévoient le pire, ouais. Quoi, en plus.
C'est... Ah oui, mais on est là pour prévoir le pire.
Ouais. Hein. C'est-à-dire, t'es pas, on va dire, t'es pas en train d'apprendre quelque part à faire du service client. Là, t'es vraiment en train d'apprendre à gérer une situation de crise, presque.
Et c'est vraiment mon objectif aussi aujourd'hui avec toi, c'est d'expliquer que ce métier, c'est absolument pas servir un plateau repas.
Ouais, mais c'est
ça,
vrai
c'est
que ça...
c'est la partie qui est visible. Ouais. C'est vrai, on le fait, bien évidemment. Mais c'est absolument pas le métier d'hôtesse de l'air, pas du tout.
Et on apprend, par exemple, à rassurer des passagers. Parce qu'il y a quand même des gens, ils rentrent dans un avion, ils sont morts de peur, quoi.
Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, ouais, qui sont assez phobiques. Hein. On n'a pas de formation pour ça, mais ça va vraiment dépendre des habiletés, des capacités de chacun. Et du coup, il en revient au recrutement de la compagnie de choisir les individus qui auront le plus d'empathie, qui auront le plus d'habileté sociale. C'est vrai que...
Donc c'est au moment du recrutement, quoi.
Oui, parce que c'est pas quelque chose qui s'apprend, finalement. On peut te donner quelques tips,
ouais.
Mais ouais, c'est vraiment des qualités humaines aussi qui sont attendues auprès des stewards et des hôtesses de l'air que d'être dans l'empathie, dans l'humain, aimer les gens, aimer le service aux gens, avoir cette envie de non seulement de les servir, mais de les accompagner. Ça, c'est des qualités humaines, quoi. Ça prend pas spécialement.
Bon, l'image qu'on a clairement, hein, c'est que travailler pour une compagnie aérienne, c'est énormément d'avantages. Enfin, je pense que dans l'inconscient collectif, on a tous cette idée de « Ah, ben, si t'es dans l'aviation, tu vas payer tes billets 10% du prix, etc. » Donc déjà, qu'en est-il?
Ouais, ok. 10% du prix, non. Hein, faut se sortir ça de... non. Moi, je vais pas dire qu'il n'y a pas d'avantage. J'exerce ce métier depuis 2 ans et demi maintenant et vraiment, c'est toujours un plaisir. Partir en vol, c'est vraiment une joie. Donc, bien sûr, il y a des avantages. Il y a aussi des inconvénients, mais il est important de voir ce métier tel qu'il est et pas juste avec les a priori qu'on en a.
Ouais.
Donc, tu soulignais tout à l'heure, oui, on s'imagine pas que l'hôtesse de l'air, elle fait tout ça et qu'elle est là pour penser au pire. Mais c'est un petit peu le métier, finalement.
Ah oui.
Donc oui, on est formé à ça. Je vous ai expliqué dans les steps à travailler lors de la formation, c'est voilà, procédure standard, procédure d'urgence. Donc vraiment, on est là quand même pour faire un métier rigoureux, faire attention à ce qu'on fait, être avant-gardiste des dangers qu'il pourrait y avoir. C'est pas pour rien que l'avion, on dit de lui que c'est le moyen de transport le plus sûr.
Ouais.
C'est parce que à toutes les étapes de ce voyage-là, donc depuis le sol, depuis l'aéroport jusqu'à la fin du voyage, les gens qui travaillent autour de ça sont là pour faire attention à tous les dangers.
Ouais, on l'a vu dans le mois de l'aéronautique, que ce soit chez Safran ou chez tous les fournisseurs même de l'avion, il y a un niveau de sécurité extrême. C'est-à-dire, c'est même poussé à son paroxysme. On ne laisse pas partir une pièce si elle n'a pas été testée, si elle n'a pas été éprouvée, etc. Donc on voit bien, oui, qu'on comprend pourquoi il y a très peu d'accidents.
Ouais, parce que jusqu'à la cabine, nous, stewards et hôtesses, on est là pour faire attention à tout ça. Et ça inclut beaucoup de dangers potentiels. Oui, des avantages, certes, il y en a, mais vraiment, il ne faut pas le voir comme le métier où on voyage gratuitement et on fait des photos pour son compte Instagram.
Ouais.
Non, c'est quand même un métier très sérieux. C'est pas un job de vacances, c'est pas un job étudiant. Il faut l'exercer avec quand même de la rigueur et du sérieux. Ouais.
On va parler du quotidien, justement, et peut-être de ce que tu peux appeler des contraintes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'organise ton planning? Parce que quand on a préparé l'émission, tu m'as un peu expliqué, effectivement, c'est quand même un planning qui est très particulier. Et pour ceux qui voudraient se lancer, je pense que ça peut avoir un impact même sur ta vie personnelle. Donc, comment ça se passe? Si toi, tu nous donnes ton planning aujourd'hui, c'est quoi?
Alors, moi, j'ai des plannings au mois. Je ne peux que l'envisager au mois puisque je pars pour plusieurs jours. Je n'ai aucune régularité dans mes plannings. Je peux partir 4 jours comme je peux partir 15 jours. Et voilà, tous les mois sont différents, les escales sont différentes, les équipages sont différents.
Oui.
Il n'y a vraiment aucune routine. Donc ça, pour moi, c'est un avantage. Peut-être pour quelqu'un d'autre, ce sera un inconvénient. C'est chacun ses affinités. Mais donc voilà, bah, au mois, je vais avoir 8 vols pour être un petit peu plus précis. Donc 8 vols, mais donc 4 déplacements.
Ouais.
Et voilà, ce sera surprise d'un mois à l'autre où je vais et combien de temps.
Mais du coup, tu peux. Alors, parce que si on prend ton cas personnel, donc la compagnie pour laquelle tu travailles peut t'amener dans les îles, je crois, Tahiti, tu m'as dit, La
Ouais.
Réunion, si je dis pas
Ouais.
de bêtises, mais aussi San
Les
Francisco, les
États-Unis, ouais.
États-Unis. Et il est possible aussi que tu fasses un voyage, mais qu'après tu sois obligé de rester plusieurs jours, mettons aux États-Unis. Je crois que c'est ce qui s'est passé la semaine dernière, non? Tu étais à San Francisco.
Bah là, je rentre d'une rotation de 14 jours, ouais. Donc,
D'accord. Donc pas en 14 jours, t'étais
je
pas
suis pas
chez
là.
toi.
Ouais, non, ouais.
Ouais, non, mais c'est important de le dire, tu vois.
Oui, bah c'est ça. Bah, c'est pour ça que je te dis, c'est de 4 jours, c'est le minimum sur lequel le temps où je peux partir, jusqu'à 14, disons 15, quoi.
Ouais, parce que
Donc.
quand tu dis 8 vols, tu vois, on pourrait s'imaginer, bon, bah, elle part demain à San Francisco, mais elle revient après-demain, mais sauf que c'est pas toujours comme ça.
Bah, absolument pas. Quand on fait du long courrier. Donc c'est des vols très longs, bien évidemment. Vous ajoutez le temps avant à l'aéroport, le temps après. Évidemment, jamais on fait un vol retour dans la foulée. Non, on reste sur place et on doit se reposer avant de faire le vol retour.
Alors parfois quand même, tu peux un peu te balader. Tu m'as expliqué que c'est pas toujours le cas, notamment je crois que la Réunion tu peux pas parce que c'est trop court,
Non,
mais
mais
pas.
c'est des choix après.
Ouais.
Chacun. Puis on n'a pas tous le même âge aussi. Hein. À 20 ans, souviens-toi, à 20 ans,
Ouais, mais enfin
on a.
bon, on va pas trahir ton âge, mais enfin t'es quand même très jeune. Hein.
Non, 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 mais passé la vingtaine, on sent qu'on ne peut plus faire exactement les mêmes choses. Mais voilà, bah, quelqu'un qui aurait besoin de dormir peu, il a du temps pour profiter sur place. Après, si on a besoin de dormir un peu plus, bon, voilà.
Ouais, parlons-en d'ailleurs du sommeil, parce que t'es arrivé, tu m'as dit, ça fait 3 jours que j'ai pas dormi. Donc en fait, pour avoir un équilibre physiologique, j'ai cru comprendre que c'était pas simple non plus. Avec les jet lags et tout, j'imagine, mais qui se répètent, est-ce que ça vient se cumuler? Enfin, comment tu le
Bah
vis?
donc là, on rentre dans l'inconvénient principal hein, du métier. Comment on le vit? Bah, tous, chacun à sa manière, ça c'est sûr. Il y a des gens, il faut savoir que j'ai des collègues qui sont absolument pas victimes du jet lag. Ils
Ah
ne
ouais?
sentent rien, ils partent, ils reviennent, ils dorment, pas de problème. Après, bah, on n'a pas tous cette chance. Donc oui, il est vrai qu'après 15 jours... À l'autre bout du globe, bah sur un créneau totalement inversé, ouais, le retour là, il est compliqué. Bon, j'ai quand même dormi un petit peu depuis ces 3 derniers jours, hein, quand même.
En tout cas, t'as bonne mine.
Merci. Non, mais le pire, c'est
On le verra
que.
la vidéo tout à l'heure. Enfin, en
Ah,
tout cas, on diffusera des vidéos, donc les gens pourront en attester.
oh mon Dieu. Non, mais je trouve que tous, on est censé quand même être très fatigués, mais on a tous globalement bonne mine, quoi, dans notre job. Donc,
Vous êtes
il faut
épanoui,
croire que.
peut-être?
Je crois qu'on est épanoui, je crois que peut-être le manque de sommeil préserve, je ne sais pas.
Je sais pas. À la longue, ça, je mettrai pas une pièce quand même,
Ouais,
mais.
peut-être pas.
Mais alors du coup, ouais, tu as quand même des phases de repos de plusieurs jours sur lesquelles tu vas pouvoir récupérer ou potentiellement tu peux avoir à réenchaîner tout de suite et repartir sur un gros cycle comme ça.
Alors, comme je t'expliquais par rapport vraiment aux missions de base de l'hôtesse de l'air, c'est assurer le confort, c'est une chose. Mais en tout premier lieu, on est là pour assurer la sécurité.
Ouais.
Assurer la sécurité lors d'un vol, avec toutes les choses auxquelles on doit faire attention et être dans l'anticipation en plus, ça demande d'être très concentré et donc d'être très reposé.
Ouais.
Ce qui fait qu'on
Tu
est
dors pas en vol.
obligé.
Tu peux pas dormir en vol.
On fait la sieste.
Si tu peux.
Ouais, on fait une petite sieste.
Vous relayez ou...
Ouais, on se relaie, donc deux
C'est
équipes
rassurant.
et on peut aller se coucher un petit peu. Ouais.
D'accord.
Mais voilà, du coup, il faut en effet qu'on soit vraiment reposé avant un vol, quoi, parce que bah, on a quand même cette mission-là d'assurer la sécurité et ça nécessite d'être reposé.
Alors toi aussi, c'était un choix, si je dis pas de bêtises, pour avoir un peu de temps libre et t'adonner à d'autres activités. Comment on occupe son temps libre, justement? Enfin, en tout cas, comment toi, tu l'occupes?
Donc voilà, les possibilités, elles sont multiples, hein. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir. Pour ce temps de repos, d'avoir un petit peu plus de temps libre que d'autres fonctions. En escale, bah, on est libre d'aller profiter sur la destination où l'on se trouve. Quand on est à Tahiti, bah écoute, je dois bien reconnaître qu'on se plaint pas. Après, voilà, chacun peut en profiter pour explorer ses loisirs. Moi, personnellement, je me suis lancée dans l'écriture et j'ai donc écrit deux ouvrages, deux romans en auto-édition aujourd'hui. Et...
Qu'on peut trouver quelque part ?
Qu'on peut trouver sur Amazon déjà et d'ores et déjà dans une petite boutique.
D'accord.
Et bientôt aussi dans une librairie.
Bon, ben on pourra mettre les ressources, le lien pour Amazon, pour les curieux qui voudraient lire les ouvrages.
Avec plaisir.
Une petite dernière question quand même sur le métier. Donc là, tu parles beaucoup de long courrier. Pour les gens qui travaillent, par exemple, uniquement sur les lignes intérieures, parce que j'imagine qu'il y en a. Donc là, on est sur des vols d'une heure, allez, deux heures grand maximum. Ou, enfin, bon, après, je ne sais pas si on appelle une ligne intérieure en Europe, mais je ne pense pas. C'est vraiment en France, hein, la ligne intérieure.
Donc pour distinguer un peu, donc moi, je fais du long courrier.
Ouais.
Et l'autre partie des PNC, les personnels navigants commerciaux, font du court ou du moyen. C'est ce que tu distingues ouais. là. Donc oui, vol en Europe, vol
dans la journée,
sur le territoire national. Ouais. Voilà. Donc dans la journée, bah, tu ne fais pas qu'un seul aller-retour. Tu peux en faire deux, tu peux en faire trois. Voilà. Donc c'est vrai que ça, c'est à distinguer parce qu'on vole soit sur l'un, soit sur l'autre.
Tu choisis en fait dans la compagnie. En fait, est-ce que c'est parce que toi, tu es dans une compagnie quand même qui fait pas mal de long courrier, je crois.
Ma compagnie ne fait que du long courrier.
Ouais, donc bon, de toute façon, quand t'es recruté, là, tu sais que ce sera ton rythme. Mais après, est-ce que c'est un choix que toi tu fais par exemple, si tu vas chez Air France, j'imagine que tu dois avoir les deux.
Ouais.
Tu choisis ou est-ce que tu peux même moduler et dire je fais un peu de long, un peu de court ?
Alors malheureusement, quand tu rentres chez Air France, tu ne peux pas choisir, tu vas être affecté et ensuite tu peux demander
D'accord.
à changer. Il y aura un temps d'attente, soit ce sera accepté la première fois, soit il faudra redemander. Mmh. Donc ça peut durer quelques années, voilà, tu peux rester soit sur le long, soit sur le court, c'est pas forcément ce que tu souhaites, tu dois attendre un peu...
Ah, c'est pas simple. Parce que quand même, si t'as des enfants, par exemple, c'est hyper compliqué, je pense, de faire du long courrier, quoi. Parce que c'est un rythme qui te permet pas de pouvoir être régulièrement chez toi, quoi.
Alors, ça dépend comment tu vois les choses. C'est sûr que tu seras pas tous les soirs à la maison.
Ouais.
Donc, en effet...
Et sur le court, t'es tous les soirs à la maison ou pas forcément ?
Ah, bah, sur le court, globalement, tu peux être tous les soirs à la maison.
D'accord.
Il y a des découchés, ça s'appelle. Donc, tu vas faire une nuit en escale quelque part.
Ouais.
Dans tous les cas, tu rentreras le lendemain.
Mais là, tu vas la faire à Beauvais, donc c'est beaucoup moins sexy, quoi.
Ouais, c'est moins sympa, ouais. Mais non, après, le propos n'est pas de dire que c'est pas possible d'avoir une vie de famille quand on fait du long courrier, pas du tout.
Ouais.
J'ai des collègues qui arrivent très bien. Les enfants ont le rythme aussi. Et puis, ce qu'il y a, c'est que nous, quand on est là, bah, on est là pour plusieurs jours aussi. Donc, tu peux partager un autre temps avec tes enfants, finalement, parce que tu vas être là toute la journée. Tu peux l'amener à l'école, aller le chercher, passer le mercredi après-midi, le week-end entier
ouais.
Avec lui. Ce qu'un parent qui finalement est en activité à 35 heures...
D'ailleurs, on les entend, là, les enfants,
voilà,
ils,
ouais.
ils sont bruyants. Je suis désolé pour les auditeurs, on est en fin de journée, on a les gens qui rentrent.
C'est
donc...
le retour de l'école.
Voilà, c'est le retour de l'école. Bon, en tout cas, merci parce que c'est super intéressant. Je pense qu'on pourrait encore passer pas mal de temps sur le sujet, mais bon, on a quand même bien dégrossi. Avant de se quitter, j'aime bien poser toujours aussi la question pour moi qui est un peu générique parce que c'est celle que les jeunes aiment bien entendre. Et c'est ce que j'appelle la question du sage. Donc, même si tu es très jeune... Tu es sage, tu l'as dit, depuis ta plus tendre enfance.
Exactement.
Alors, tu donnerais quoi comme conseil à un jeune qui cherche sa voie et qui est un peu paumé ?
Je lui donnerais comme conseil d'être actif, de bouger, de sortir, d'aller à la rencontre, de tenter des trucs. Vraiment, je crois que c'est aussi ce dont va souffrir la nouvelle génération qui malheureusement... reste un peu trop derrière son téléphone et on ne peut pas les en blâmer. C'est vrai que le téléphone aujourd'hui te donne l'impression que tout est accessible. Finalement, tu es dans ton canapé, tu commandes ton Uber, tu vas à peine faire le déplacement jusqu'à la porte, ce sera déjà payé. Donc on va être voilà, dans cette génération où le mouvement va être de plus en plus limité. Malheureusement, de par mon expérience et du coup, c'est ce en quoi je crois. Voilà, moi, j'ai cette impression que oui, c'est d'être actif, c'est d'aller à la rencontre des gens, c'est de faire de nouvelles expériences qui fait grandir. Une nouvelle expérience en amène une autre. Une rencontre amène à rencontrer quelqu'un d'autre par la suite. Et voilà, et c'est comme ça que les choses se font. Et il faut surtout pas... ça, c'est un autre conseil important aussi, je crois. Et je suis, comme tu l'as été, bénévole pour être mentor auprès des jeunes aujourd'hui. Et j'entends souvent... Ah, ben, j'ai déjà fait une erreur. Ah, ben, ça m'a déjà fait perdre tant de temps. Et ça, je trouve ça très triste dans la bouche de quelqu'un qui est jeune, parce que c'est pas du tout la vision qu'il doit en avoir. On est dans cet esprit où, voilà, tout de suite, une année de plus ou de moins dans un secteur, c'est une erreur, c'est du temps perdu. Pas du tout. On apprend toujours quelque chose, on grandit de cette expérience. Elle amènera toujours un plus à un moment donné, même si sur le coup, on n'en voit pas tout de suite le bien fondé, mais il ne faut pas le voir comme une erreur. Il ne faut pas avoir peur d'aller essayer, se heurter, se planter, se tromper. Ça fait partie de la vie et c'est de ça qu'on grandit. Et c'est hyper important de ne pas se restreindre et rester chez soi pour éviter les erreurs. C'est
100% d'accord. Et d'ailleurs, la majeure partie des invités qui passent au micro de Deviens Génial ont des trajectoires qui n'ont pas été linéaires, et que ce soit des grosses réussites ou des réussites, on va dire, plus modestes. Il y a très très peu de gens en fait qui ont toujours fait la même chose. J'ai très peu d'exemples. Donc ouais, le droit à l'erreur et surtout le droit à l'exploration, parce qu'en fait...
Bien sûr.
Est-ce que c'est une erreur en plus? Non. Même pas. C'est, ouais. Tu vois, une exploration, une et tu te dis, je suis pas fait pour ça. Ça veut pas dire que c'est une erreur qui va impacter ta vie. Donc 100% d'accord. Merci en tout cas pour ce conseil. Donc, bien entendu, je crois qu'on a quand même fait un beau mois de l'aéronautique. On va clôturer avec ton témoignage. On a vu un peu de tout, hein. On a vu la tour de contrôle, on a vu chez Safran comment on faisait des moteurs. On a aussi parlé de la décarbonation du secteur, qui est quand même un sujet important, hein, parce que si on veut continuer à voyager via l'avion, il va falloir trouver des solutions. Donc je voulais te remercier, Pauline, pour avoir clôturé ce mois qui a été pour moi, je dois le dire, hyper intense, parce que beaucoup de travail, mais en même temps vraiment épanouissant. J'ai appris énormément de choses et je trouve que c'est un secteur qui est extrêmement attachant.
Et ben avec plaisir et merci à toi pour ce mois brillant.
Ben merci. Alors justement, pour nos auditeurs, parce que vous avez été beaucoup à écouter ce mois-ci, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce que le podcast est gratuit, il est fait pour ça, pour qu'il soit partagé au plus grand nombre. Et puis n'hésitez pas non plus à commenter, liker, à nous envoyer des petites étoiles sur Apple Podcast, parce que c'est comme ça que ben, on est de plus en plus connus et qu'on aide de plus en plus de jeunes. Donc je vous remercie à tous pour votre fidélité et Pauline, je te dis à très bientôt.
À bientôt Jérémy, merci.
Salut. Non.